Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Villermège. Dernier temps de notre série consacrée aux villes et à leurs édiles, après nous être intéressés lundi à Jérusalem, aux États-Unis avec Chicago et San Francisco mardi, et puis ensuite la Turquie hier avec Diyarbakır et Istanbul, cap ce matin sur l'Amérique latine et en particulier sur la capitale de la Colombie, Bogota.
Muchas gracias a todos.
Merci à tous de vous être levés tôt aujourd'hui pour m'accompagner dans ce moment très spécial de ma vie. Cette investiture fait de moi la première femme, mère, homosexuelle de l'histoire de Bogota. La Colombie a réussi, non sans mal, à faire des avancées vers une démocratie inclusive. Et enfin, une femme, une citoyenne a réussi, non pas grâce à son nom de famille, mais grâce à son propre mérite et à son dynamisme, à arriver là où je suis aujourd'hui. Il a fallu attendre 2 décennies après l'entrée dans le 21e siècle.
En octobre dernier, Bogota élisait au poste de maire, pour la première fois de son histoire, une femme. Claudia López, issue d'un milieu populaire, militante anticorruption, défenseuse de l'environnement et homosexuelle revendiquée. Si Bogota a toujours été plus progressiste que le reste du pays et s'est souvent démarquée dans le choix de ses édiles, l'élection de Claudia López porte une forte valeur symbolique. Et alors que le pays est gouverné par le conservateur Iván Duque, certains médias voient en Claudia López le symbole du renouveau, l'émergence de la figure de l'opposition de demain. Mais pour cela, il faudra d'abord convaincre au niveau local, et relever les défis de la capitale colombienne. Qui est Claudia López? Que représente-t-elle sur la scène politique? Comment est-elle parvenue au pouvoir? Quel bilan tirer de sa gestion de sa première épreuve, l'épidémie de Covid-19? Et quels obstacles se dressent devant elle pour espérer épouser un destin national? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jacobo Grajales. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Lille, membre du CERAPS, qui est le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. Et puis, vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France. Vous aviez publié l'année dernière « L'État malgré tout, produire l'autorité dans la violence ». C'était chez Cartala. Avec nous également, depuis Bogota, Yann Basset. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Doublement merci puisqu'il est très tôt chez vous. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut des hautes études d'Amérique latine et vous êtes également professeur à l'Université de Rosario à Bogota. On va commencer peut-être avec la figure de Claudia López parce que son élection a été vue pour un certain nombre d'observateurs et de médias comme une véritable rupture. C'est la première femme à la tête de la municipalité. Elle est ouvertement homosexuel, ce qui n'est pas si souvent revendiqué par les responsables politiques colombiens dans un pays qui est globalement assez conservateur. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'arrivée de Claudia López constitue une rupture ou est-ce qu'il faut peut-être un peu nuancer les choses? On va commencer par vous, Jacobo Grajales, pardon.
Oui, alors, je dirais les deux, en fait, parce que d'une part, c'est évidemment une rupture pour les raisons que vous venez d'évoquer, son genre, son orientation sexuelle, son appartenance partisane également. Elle est l'une des fondatrices du Parti Vert, dont on pourra parler sans doute tout à l'heure, qui diffère beaucoup de ce qu'on entend comme Parti Vert dans un contexte européen. Et d'autre part, ça se place quand même en continuité avec les comportements électoraux, mais Yann Basset pourra sans doute vous donner beaucoup plus d'éléments là-dessus. Ce qu'est le profil électoral de la ville de Bogota, une ville, vous l'avez également dit en introduction, beaucoup plus progressiste que bien d'autres villes colombiennes, avec une histoire d'engagement de la gauche et du centre, une histoire d'affaiblissement aussi d'un certain nombre de machines partisane. Donc c'est une rupture, mais pas si étonnante que ça finalement. Mm-hmm.
Yann Basset, comment vous voyez les choses, vous, depuis Bogota? Jacobo Grajales parlait de la question du comportement électoral. Il semble que là, peut-être, des choses aient changé, parce que c'est vrai que traditionnellement, on a, en très gros, je caricature un peu, mais c'est pas si loin de la vérité. On a d'un côté des candidats qui sont soutenus par les populations les plus défavorisées, et puis de l'autre côté, des candidats plutôt soutenus par les classes moyennes, les classes plus favorisées. Il semble que là, la sociologie électorale pour cette élection est un peu différente. Est-ce que vous confirmez la sociologie des électeurs de Lopez, c'est un peu diversifié?
Oui, effectivement, il y avait depuis quelque temps, depuis deux décennies à Bogota, une forte polarisation entre des candidats soutenus par les quartiers les plus riches et d'autres par les quartiers les plus pauvres, entre la gauche et la droite, si on veut le voir comme ça. Et c'est vrai que Claudia Lopez est la première candidate depuis pas mal de temps à avoir un électorat assez homogène finalement et avoir réussi à avoir des soutiens un petit peu sur les deux tableaux. Et un discours qui explicitement essayer de dépasser cette polarisation, non seulement elle d'ailleurs, mais son principal adversaire également. Il y avait dans cette élection une espèce de un message, un appel à aller au-delà de cette polarisation qui a marqué la culture politique de Bogota ces derniers temps.
Regardons peut-être un peu le profil et le parcours de Claudia Lopez, qui se présente volontiers comme une femme issue d'un milieu populaire, ce qui est vrai, issue de la société civile, qui ne ferait pas partie de l'establishment. Et en même temps, quand on regarde un peu son parcours, Jacobo Grajales, elle apparaît plutôt précisément comme un pur produit du système. Elle a fait des brillantes études, diplômée en finance et administration publique à l'Université de Colombie. Elle a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université de Chicago. Elle a été élue au Sénat sous la bannière du Parti écologiste. On reviendra justement sur cette question de la défense de l'environnement. On va essayer de comprendre quelle écologie elle défend. Elle a ensuite essayé de se présenter à la présidentielle. Finalement, elle a abandonné, mais elle a fait un ticket avec un candidat qui finalement a été éliminé. Mais en tout cas, elle a tenté sa chance. C'est une femme qui fait partie du système, Jacobo Grajales.
Oui, elle fait partie d'un certain système, c'est-à-dire depuis... 3 ou 4 décennies dans de nombreux pays d'Amérique latine, on a des profils comme les siens, des sortes d'entrepreneurs de moralisation de la politique qui font leur carrière politique essentiellement sur la dénonciation de l'ancien système et en même temps sur l'idée de faire valoir des compétences techniques et la capacité aussi de s'entourer de personnes qui leur ressemblent, des personnes issues également de cette entre guillemets société civile et hautement entraînée pour les tâches de la gestion publique. Alors elle rentre exactement dans cette espèce de carrière politique typique de ce type d'entrepreneur politique, avec une participation forte aux mobilisations de 1990 en faveur de la constitution, d'une nouvelle constitution politique, avec un rôle très important joué dans les années 2000, on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez, dans la dénonciation des collusions politico-criminelles, des alliances entre une partie de la classe politique et les milices paramilitaires, et puis ensuite un engagement dans la création de ce parti vert qui, avant d'être un parti écologiste, parce que je pense pas que l'écologie politique soit véritablement centrale dans son ADN politique, et surtout un parti qui se fait le porte-parole, donc justement de ce type d'entrepreneur politique anti-corruption, en faveur d'une moralisation de la politique et d'un renouvellement des élites.
Essayons, Yann Basset, peut-être de faire une critique de cette démarche de moralisation de la politique, parce qu'effectivement, pour comprendre le parcours de Claudia Lopez, il faut rappeler les efforts qu'elle a déployés contre la corruption, d'abord comme simple militante, j'allais dire, autour de ce qu'on avait appelé en Colombie le scandale de la parapolitique, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais qui avait été une très grosse affaire, très importante, avec d'importantes conséquences politiques du point de vue interne, mais aussi international, mais également quand elle était sénatrice. Quel bilan vous faites-vous de sa lutte anticorruption? Et essayons, s'il vous plaît, d'avoir une approche un peu critique, parce que en Colombie, tout le monde fait de la lutte contre la corruption, c'est un peu le sport national. Donc essayons d'avoir une approche critique, Yann Basset.
Oui, effectivement. Alors de ce point de vue-là, c'est plutôt la continuité hein, qui s'impose parce que depuis les années 90, le discours anticorruption et non seulement anticorruption, mais je dirais un petit peu antipolitique parfois, non, de critique systématique à la classe politique qui est supposée être fermée, clientéliste et corrompue, effectivement, et quelque chose de très porteur. Et donc, il y a un paradoxe, c'est que tous les hommes politiques sont antipolitiques, on va dire. Enfin, tous les hommes politiques en vue. Donc, c'est une espèce de schizophrénie dans la culture politique colombienne. Tous les hommes politiques un peu populaires passent leur temps à critiquer les hommes politiques.
Et alors, est-ce qu'elle se démarque un petit peu quand même dans son action, justement, de lutte contre la corruption, ou finalement pas tant que ça?
Pas tant que ça, mais alors elle a quand même essayé de dépasser un petit peu le discours. En 2018, elle a promu un référendum d'initiative citoyenne, comme on dit en France, qui en Colombie, enfin il y a toute une culture de participation et tous les instruments pour faire ça. Et elle a presque réussi à faire passer un référendum sur la corruption avec un certain nombre de propositions qui essayaient d'aller un petit peu au-delà du discours et de proposer des améliorations.
Oui, sauf que le texte n'a pas été voté, faute
de
de
participation.
participation, oui. Jacobo Grajales, comment vous voyez-vous son action contre la corruption?
Alors, je vous rejoins pleinement et ainsi que mon collègue, sur cette idée de, à un moment donné, tout le monde se dit paladin de l'anticorruption. Ça, c'est pas propre à la Colombie, bien sûr, c'est même pas propre à l'Amérique latine. Ici en Europe, on a ça, par exemple, en Italie ou dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, en Roumanie, par exemple. La particularité de Claudia López par rapport à d'autres entrepreneurs de l'anticorruption en Colombie est qu'elle a à son crédit cette participation au dévoilement des alliances politico-criminelles de la parapolitique que vous avez évoquée, donc ces rapports entre paramilitaires, milices paramilitaires et personnel politique. Elle n'a évidemment pas été la seule qui a joué un rôle important dans ce dévoilement, mais elle était centrale. Et elle a fait valoir ça dans ses différentes campagnes politiques. Elle a fait valoir cet argument. Il y avait, je me souviens, il y a quelque temps, l'une des, je sais plus si c'était pour sa campagne au Sénat ou à la mairie, où elle se présentait comme celle qui a dévoilé la parapolitique. Disons qu'elle a quand même, elle endosse ce discours et elle a quand même un petit peu plus d'arguments pour lui donner du contenu que d'autres.
Yann Basset, si Claudia López a été élue à la mairie, c'est aussi qu'elle a bénéficié d'un soutien de plusieurs partis, une coalition de plusieurs partis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Yann Basset, justement, quelles étaient ces forces politiques dont elle a obtenu le soutien, ce qui a permis effectivement de l'avoir à la tête de la municipalité? Et la question qu'il y aura derrière, évidemment, mais on va commencer par ce qui est de Bogota, c'est est-ce que éventuellement la coalition qu'elle est parvenue à construire au niveau de la ville, est-ce qu'on pourrait l'imaginer à l'échelle du pays? Mais on va commencer par ce qui est de Bogota, Yann Basset.
Oui, alors effectivement, c'est intéressant parce que malgré ce discours antipolitique, Claudia López a fait de gros efforts pour mettre sur pied une coalition avec deux partis politiques, malgré la mauvaise image des partis politiques en Colombie. Donc son propre parti, l'Alliance Verte, le Parti Vert, alors qu'il n'est pas un parti écologiste, hein, comme on le disait, c'est plutôt un parti qui a un discours anticorruption, un discours modernisant, on va dire, et qui est soutenu par les classes moyenne urbaine, et puis le Polo démocratique, qui est un parti de gauche dont Bogota était le bastion dans les dernières années et qui est un petit peu sur le déclin depuis quelque temps, qui a souffert plusieurs divisions, mais qui est un parti plus soutenu par les classes populaires ou moyennes basses de la ville. Donc c'est assez complémentaire. Elle a réussi à mettre sur pied une alliance qui lui permet justement de parler aussi bien aux classes moyennes et aux gens plus éduqués que aux classes populaires. Donc c'est une alliance intéressante qui effectivement qu'elle a essayé aussi de porter sur la scène nationale. Vous disiez qu'elle était candidate à la vice-présidence aux dernières élections présidentielles, candidate malheureuse dans ce cas-là, mais c'est une alliance qui continue à fonctionner et qui pourrait avoir des conséquences sur le plan national dans le futur.
Jacobo Grajales, vous y croyez, cette alliance qu'elle a construite à Bogota, elle peut refaire le coup à l'échelle du pays, par exemple pour une présidentielle?
Alors, moi, je me garderais beaucoup de faire des prévisions, surtout que la politique colombienne change quand même à une vitesse très 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 rapide. En revanche, je soulignerais quelque chose, c'est que, bien sûr, on est là pour parler de Bogota, mais on est aussi là pour parler de ce que Bogota nous dit de la politique bon, plus largement dans les villes latino-américaines. Dans tout un tas de villes moyennes, il y a eu aux dernières élections locales. Mais ça, là aussi, Yann Bassé sera plus, sans doute plus qualifié que moi. L'arrivée de conseillers municipaux issus du Parti Vert. Et moi, j'ai observé ça dans des terrains que je fréquente. C'est très intéressant parce que ça. Alors, il se coulait bien sûr dans les structures de la politique partisane locale. Et là-dessus, il y a pas d'exceptionnalité de ce type de parti. Ils sont obligés de jouer le jeu puisque c'est le jeu politique, mais il permettait à chaque fois de réaliser aussi des alliances comme celles que vous avez évoquées pour Bogota, des alliances un petit peu qui dépassaient les formes de polarisation classiques de la politique colombienne. Et donc on pourrait quand même s'attendre, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ce parti acquiert une forme d'ancrage territorial, que la plupart des entreprises anticorruption par le passé, dont ces entreprises ont manqué. Là, on est face à quelque chose qui ressemble à un vrai parti politique.
Yann Basset, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Bogota. On s'intéresse en particulier aujourd'hui à cette ville. On n'a pas encore évoqué en réalité le projet de Claudia Lopez pour la ville. On a dit effectivement qu'elle avait porté cette lutte contre la corruption, mais pour la ville, c'est quoi sa vision et ses principaux projets qu'elle porte?
Alors, plusieurs choses. Donc, il y avait cette idée forte du discours de campagne d'aller au-delà de cette polarisation qui a marqué la vie politique de Bogota dans les dernières années, entre la gauche et la droite, d'essayer d'avoir une politique un peu plus à l'écoute des gens et moins dans le conflit permanent entre les deux bords qui a marqué pas mal la vie politique ces derniers temps.
Oui, mais c'est pas sur ce genre de discours qu'on gagne des élections, c'est sur des projets concrets, en particulier quand on parle de municipal.
Bah, vraiment, quand même, c'est
Ça
quelque
a été
chose qui a
important.
beaucoup marqué, hein. Ça a beaucoup marqué les derniers temps à Bogota, parce qu'il y avait les mandats sont très courts à Bogota, c'est 4 ans à peine, et il y a eu une alternance entre gauche et droite qui a été particulièrement destructive dans les dernières élections, parce qu'on avait l'impression que chaque fois qu'un maire d'un bord arrivait à la mairie, on détruisait tout ce qui avait été fait avant, et en 4 ans, on n'a pas le temps de faire d'autres choses. Alors la caricature de ça, c'est un petit peu le projet de métro. Bogota est une grande ville de 8 millions d'habitants et c'est une ville qui n'a pas de métro. Elle a un système de bus avec des lignes dédiées qui s'appelle Transmilenio, mais c'est tout, et c'est clairement insuffisant. Donc il y a une espèce de bagarre sur le métro depuis des années, et on n'a pas réussi à avancer, on n'a pas réussi à mettre la première pierre d'une ligne de métro. Et l'idée, une des idées fortes de Claudia, c'était de continuer les projets qui étaient faits, d'avancer sur ce thème du métro. Donc, alors que depuis quelque temps, les dernières administrations, à chaque fois qu'un nouveau maire arrivait, on avait un nouveau projet de métro qui évidemment n'aboutissait pas. Donc ça, c'était un projet fort dans le domaine des transports, qui est vraiment un gros, gros problème pour le développement de Bogota.
Jacobo Grajales, sur ce projet qui est vraiment un projet phare. Alors, le métro, on en parle depuis très longtemps à Bogota, depuis les années 50-60. Là, Yann Bassett nous dit que la force de sa proposition, c'est qu'au fond, elle s'inscrit précisément dans la continuité, puisqu'elle a récupéré le projet de son prédécesseur Peñalosa. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait enfin faire advenir ce métro que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience à Bogota?
Alors, c'est sa force et sa faiblesse, puisque du coup c'est aussi ce qui l'expose à énormément de critiques de tous bords. À chaque fois qu'elle reprend un projet dont les caractéristiques ressemblent un petit peu à celles de son prédécesseur, elle se fait forcément des ennemis. Moi, je reviendrai sur un point qui a été mentionné par mon collègue, la capacité de ce discours anti-polarisation à attirer de la sympathie politique. Vous étiez, Florian, un petit peu sceptique quant à la puissance d'un tel discours. Moi, je dirais que ça a été et c'est aujourd'hui dans le paysage politique colombien quelque chose qui peut marcher sous certaines conditions. Il faut souligner, il faut se souvenir que les élections municipales sont arrivées un petit peu plus d'un an après les dernières élections présidentielles, qui pour le coup avaient été marquées par une polarisation très très forte et par une incapacité du centre à proposer une alternative crédible. Donc la capacité d'un acteur politique à un moment donné à dire on peut dépasser ce type de polarisation autour de quelques projets urbains concrets, et de ce point de vue-là, le métro a joué une place centrale, et un discours politique très, très porteur. Mmh. Après, oui, le métro, c'est un serpent de mer. Moi, je connais pas dans les détails l'histoire du métro, mais à une époque où je faisais des archives à Bogota, j'avais trouvé une résolution du conseil municipal datant de 1985, dans laquelle on attribuait du budget pour les études préliminaires. Donc,
Vous dites que ça peut marcher à condition que le bilan de Claudia Lopez sur Bogota soit bon. Pour que le bilan soit bon, Yann Basset, faut-il encore qu'on puisse aller au bout ? On parle là par exemple du métro. Hier, on parlait d'Istanbul et on rappelait que les difficultés du maire actuel d'Istanbul à obtenir des financements pour ce métro, parce qu'il a en face de lui un Erdogan qui l'empêche, et en particulier s'agissant de ce projet de métro. Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes logiques à Bogota ? Parce que ça pose la question de la marge de manœuvre réelle de Claudia Lopez par rapport à l'exécutif. On est dans une capitale, comme dans la plupart des capitales. C'est pas seulement la municipalité qui a la main sur les affaires publiques, c'est aussi l'exécutif, c'est aussi le président. Elle a quelle marge de manœuvre, Claudia Lopez, sur Bogota ?
Tout à fait. D'ailleurs, les relations sont assez compliquées avec la présidence. L'avantage pour ce qui est du métro, c'est que le projet qui a été laissé par le prédécesseur est vraiment bouclé et financé. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là, et on devrait rentrer très vite dans la phase d'exécution, même si elle a été retardée par toute l'affaire de la pandémie. Donc le projet est structuré. Donc de ce point de vue-là, il y a pas trop de problème, mais l'importance de la relation avec le gouvernement national, effectivement, est un thème que l'on pourrait évoquer, parce qu'il y a quand même pas mal de tensions, notamment sur le thème de la gestion de la pandémie.
Eh ben, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, Claudia Lopez avait pris ses fonctions le 1er janvier dernier, et quelques semaines plus tard, la ville plongeait dans le confinement, et il se trouve que cette crise sanitaire a effectivement laissé apparaître une forte opposition entre Lopez et Iván Duque, le président, à la fois d'ailleurs dans le style, mais aussi dans le plan du contenu. Écoutez ce que disait Iván Duque, justement.
Ici, il faut que l'on adopte une stratégie unifiée. Ça ne nous servira à rien d'affronter la pandémie de manière fragmentée. Parce que nous sommes une république unie, on ne peut pas administrer des territoires comme des îles. Je crois qu'il y a des maires qui essayent de prendre les meilleures décisions pour renforcer leurs réponses, mais je crois qu'ici, il faut mettre en avant une réponse nationale qui applique les recommandations devant s'appliquer à l'ensemble du pays.
Voilà, donc le président colombien, Iván Duque, c'est une critique en creux de Claudia Lopez, parce qu'effectivement, il y a eu un affrontement sur la manière dont il fallait gérer cette crise sanitaire. Jacobo Grajales, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots justement sur quoi on était en désaccord entre Claudia Lopez et Iván Duque ? Et puis on regardera s'il vous semble que précisément cette crise sanitaire a pu peut-être conforter la maire de Bogota dans ce costume de première opposante.
Alors, ce qu'il faut, je pense, bien expliquer aux auditeurs et aux auditrices, c'est que la gestion de ce type de situation dans un pays comme la Colombie repose quand même en partie importante sur les autorités locales, contrairement à ce qu'on a vu en France, où on a un modèle étatique beaucoup plus centralisé et une présence de l'État beaucoup plus forte sur les territoires. En Colombie, il y avait des initiatives qui venaient des villes, des gouvernements départementaux, du gouvernement national, et forcément ça a créé, surtout dans les dans les premières semaines où l'on a pris la mesure de ce que c'était que la pandémie, ça a créé de la cacophonie. Bogota a été l'une des premières administrations municipales à tirer la sonnette d'alarme et à appeler à, alors d'abord ils ont appelé ça une, mais Yann me corrigera peut-être, ou me complétera, une espèce de répétition, de coup d'essai, du confinement sur un premier week-end pour voir comment on pouvait organiser une ville confinée, puisque évidemment ça s'était jamais fait. Le gouvernement a été un petit peu pris de court par l'entrain avec lequel l'administration de Bogota a pris cette question-là, et finalement dans la communication politique, le président a apparu comme beaucoup moins décidé à aller jusqu'au confinement, à l'époque où tout le monde considérait que tout ça était une solution quand même trop radicale. Donc c'est là où il y a eu un dissensus à la base, et puis après il y a eu une série de choses sur la construction, enfin l'établissement d'unités provisoires pour désengorger les hôpitaux des malades courants afin d'être prêt à accueillir les malades du Covid. Enfin, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Je pense qu'au fond, ce que ça nous dit de la situation politique actuelle, c'est que on se retrouve avec un poste de maire de Bogota qui a toujours été une position politique à visée nationale, à visibilité nationale. Bon, non, c'est pas très différent de ce qui se passe avec les mairies des capitales en Europe. Et du coup, une maire qui est un petit peu entronisée comme une opposante au président actuel, mais qui, dans les faits, dans la gestion courante des affaires de la ville, doit coopérer, est obligée de coopérer avec les institutions nationales.
On peut ajouter, parmi les décisions les plus notables prises par Claudia López, ce programme d'aide pour les plus pauvres de 100 dollars pour les 350 000 foyers les plus modestes, même s'il y a eu des retards. Et puis on peut aussi dire qu'il y a des décisions qu'elle a prises qui ont été critiquées, y compris à l'intérieur de son propre camp. Je pense par exemple à ses sorties alternées hommes-femmes, où elle a été critiquée, sur le refus d'accueillir aussi des migrants vénézuéliens. Donc là, y compris dans son camp, il y a eu des critiques. Mais quand on regarde, Yann Basset, le résultat des courses, si je puis dire, et qu'on regarde les sondages d'opinion, alors il y en a un que j'ai vu qui remonte à fin avril, 89% des sondés approuvaient l'action de Claudia López. Et quand on regardait au niveau national pour Iván Duque, seulement 52% approuvaient l'action du chef de l'État, même si c'est un peu remonté par rapport aux semaines et aux mois précédents. Mais est-ce que là, ça y est, quand on regarde un peu justement cette opinion, on a vu émerger l'opposante à Duque et celle qui, peut-être demain, au scrutin de 2022 pour la présidentielle, eh bien, s'opposera à sa reconduction ?
Alors, en 2022, ça sera encore un peu tôt parce qu'elle sera toujours maire, donc elle pourra pas avoir un rôle.
Elle peut lâcher son poste. Elle peut lâcher son poste.
Elle peut lâcher son poste, mais en général, c'est quand même quelque chose que les électeurs n'apprécient pas trop, non, d'abandonner un mandat pour essayer d'en briguer un autre avant la fin. C'est compliqué. Il y en a qui ont essayé avant et ça n'a pas bien marché. Pour revenir à la gestion de la pandémie, c'est intéressant parce que Claudia López s'inscrit un petit peu dans une tendance dont on parle beaucoup au niveau international, qui voudrait que les femmes finalement gèrent mieux l'épidémie, la pandémie que les hommes. Alors il y a le cas d'Angela Merkel, le cas de la première ministre de Nouvelle-Zélande, en Scandinavie, etc. Il y aurait une manière féminine peut-être plus attentive, peut-être plus disposée à prendre des mesures radicales et éventuellement problématiques pour l'économie, mais qui effectivement arriverait à sauver des vies. C'est un petit peu sur cette idée-là que Claudia López s'est placée, en adoptant effectivement, comme disait Jacobo, un discours très un discours et des mesures assez contraignantes pour essayer d'enrayer cette pandémie. Alors il faut voir ce que ça va donner, parce qu'on n'en est pas encore sorti. On est toujours en confinement en Colombie, même si les règles ont été un petit peu relâchées, mais pour le moment, disons qu'on a l'air de s'en tirer mieux que les voisins, enfin je touche du bois. Et effectivement, si ça se confirme, c'est un bon point pour Claudia Lopez, dont les mesures strictes ont été effectivement jusqu'ici plutôt bien reçues par la population, même si ça implique des sacrifices énormes, notamment pour les plus pauvres et pour ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire les gens qui vivent de la vente au jour le jour, et qui évidemment sont en train de vivre des moments très très difficiles. Mais la mairie, le gouvernement national aussi ont essayé de mettre en place des programmes sociaux pour essayer de venir en aide à ces populations, et donc on va voir comment on va s'en tirer.
Pour mesurer les chances de Claudia Lopez, Jacobo Grajales, et puis ensuite on accueillera une nouvelle invitée pour aller du côté de Medellín, il faut aussi regarder les chances d'Ivan Duque et regarder un tout petit peu son bilan. Quand Claudia Lopez est arrivée dans ses fonctions le 1er janvier dernier, il y avait eu les semaines précédentes d'importantes manifestations contre la politique d'Ivan Duque. Alors voilà, 52% d'opinion, il y a beaucoup de chefs d'État qui seraient ravis d'avoir ça. Et en même temps, il est quand même un peu en difficulté.
Oui, effectivement, la fin de l'année 2019 a été marquée en Colombie par des manifestations que l'on n'avait pas vues depuis très 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 longtemps, également par des violences policières, ce qui pour le coup n'est pas une nouveauté, mais qui ont marqué l'opinion, et en particulier à Bogota, où il y a eu un jeune homme qui est mort du fait du lancement d'une grenade par la police. La difficulté que ça a posé pour Claudia Lopez et également pour d'autres maires dans des grandes villes colombiennes, c'est que c'est de passer du discours de l'opposition à celui de la gestion. En novembre, les premières manifestations ont eu lieu le 23 novembre 2019, et le discours de Claudia Lopez à ce moment-là, qui avait donc déjà été élu mais qui n'avait pas pris ses fonctions, a été de critiquer très fortement la gestion de l'ordre public par les autorités et l'incapacité dans laquelle s'étaient retrouvées les autorités municipales pour intervenir et pour modérer les oppositions. Lorsqu'elle prend ses fonctions au mois de janvier, les manifestations ont continué, non pas parce qu'elle était là, mais parce qu'il y avait une dynamique de mobilisation qui finalement est venue s'estomper avec le confinement, un petit peu comme en France. Et du coup, à ce moment-là, elle a dû se retrouver à gérer les interventions policières qui avaient assez peu de chances de se passer bien, vu la situation et vu le pourrissement de la situation qu'avait permis le gouvernement national. Donc, effectivement, elle a, quelque part, sur cette affaire des manifestations, comme beaucoup d'autres gouvernants partout dans la planète, elle a été sauvée par le confinement.
On est avec vous, Jacobo Grajales, et vous, Yann Bassé, depuis Bogota, dans cette série consacrée à quelques portraits de villes rebelles. Aujourd'hui, on parle de Bogota, mais on va prendre la direction d'une autre ville de Colombie, Medellín. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Medellín.
Medellín est passé d'un taux de 380 homicides pour 100 000 habitants en 1991 et 92 à un taux cette année de 38, soit 10 fois moins. Ce sont des milliers et des milliers de vies sauvées.
Les escaliers ont transformé la question de la sécurité dans le quartier. Parce que maintenant il y a un meilleur accès, il y a un plus grand espace pour que la force publique puisse nous accompagner. Et pour que l'environnement en général s'améliore.
Voilà, extrait d'un reportage de l'AFP. Depuis quelques années maintenant, Medellín offre au monde le visage d'une ville apaisée où le nombre d'homicides a drastiquement baissé et où désormais il fait bon vivre. En 2014 d'ailleurs, le Wall Street Journal lui décernait même le titre de ville la plus innovante du monde. Et en effet, depuis quelques années, la ville met en place une politique urbanistique destinée à pacifier les collines qui jalonnent la ville afin de les réconcilier avec le centre. Alors comment est-ce qu'on s'y prend très concrètement et quel effet a cet urbanisme social? Bonjour Tatiana Hernández Toro.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences économiques et sociales à l'Université de Genève. Votre thèse portait justement sur ces projets d'aménagement dans la ville de Medellín. Dans les imaginaires collectifs, Medellín, ça reste malheureusement, j'allais dire, la ville de Pablo Escobar qui, avec le narcotrafic, avait transformé la cité en théâtre de violence permanente. Aujourd'hui, les niveaux d'homicides ont beaucoup baissé. Alors, il y a plein de chiffres, mais en gros, 95%, nous dit-on, en 25 ans. Jusqu'où est-ce qu'on peut mettre ce résultat au crédit des efforts qui ont été réalisés par la municipalité en matière d'aménagement? Est-ce que c'est pas un peu surestimer le pouvoir de l'urbanisme social et sous-estimer les efforts dans le domaine purement sécuritaire?
Oui, en effet, l'urbanisme social, c'était un fait très important pour la ville. Et on peut voir qu'à partir aussi des politiques sociales, spécialement en 2004, on commence à réintégrer ces collines. Et c'est, toutes ces politiques sociales, ça a aidé aussi à améliorer beaucoup les conditions de tous les citoyens et de toutes les personnes vulnérables. Et ça a permis vraiment diminuer les mortes, mais il faut se dire aussi que ce sont des structures de pouvoir très fortes. Qu'il reste maintenant, et maintenant on peut encore trouver dans toutes les collines, dans tous les quartiers, des vins, des groupes armés organisés, parce que il y a une géographie du conflit armé qui reste importante pour tous les réseaux de trafic de drogue et d'armes.
D'accord, donc tous les défis sont pas réglés, il y a encore des choses à faire. Mais si on prend un exemple très concret, alors évidemment celui qu'on prend tout le temps pour Medellín, c'est le métro câble, c'est téléphérique qui relie le centre aux hauteurs de la ville qui sont installés maintenant depuis les années 2000. On a eu ensuite les escaliers mécaniques qui connectent le centre à la célèbre Comuna 13, qui est l'un des quartiers réputés comme étant les plus dangereux de la ville. Très concrètement, ce type de projet, quel effet ça a sur les logiques de violence? Concrètement, en quoi un téléphérique, en quoi un escalator fait reculer les groupes armés?
Et oui, voilà. Il faut expliquer aussi que la ville de Medellín, de nord à sud, elle était unie pour le métro. Et après, on commence à faire des interventions dans les quartiers pour relier la ville. Alors, il y avait la rivière qui était un obstacle naturel important, mais il y a toutes les sortes de ruptures aussi sociales, parce qu'historiquement, tous ces collines, tous ces quartiers, ils s'étaient niés de la ville, ils n'existaient pas pour la ville. Et c'est pour ça que les dynamiques du conflit armé, ils sont pris relevance dans ces zones-là, et se sont installées des structures des pouvoirs énormes. Mais toutes les interventions et avait pour but, on peut le dire, une manière d'urbanisme hygiénisante, un urbanisme qui ouvre et qu'on essaye de reprendre le pouvoir qu'on avait perdu sur la ville, sur les quartiers. Mmh. Et ces manières de relier la ville, et pas qu'avec les escaliers électriques ou le métro câble que maintenant on va faire la nouvelle ligne, mais aussi les projets urbains intégrales, que c'était des projets de recherche de centralité urbaine, d'équipement, de logement social, et tout ça accompagné de l'institutionnalité qui reprend les quartiers et la politique urbaine qui va dans les quartiers et qui rend visibles ces quartiers plutôt. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales encore. Mmh. Et il a rendu visible ce qu'on ne voyait pas avant. Et ça a permis aussi aux organisations sociales de prendre aussi sa marque, son pouvoir et montrer aussi leur histoire.
Mais est-ce que justement, Tatiana Hernández-Toro, est-ce que les populations locales concernées par ces aménagements ont été concertées? J'entends les effets positifs que vous nous décrivez, mais est-ce qu'on leur a seulement demandé leur avis? Est-ce que ça s'est imposé de façon totalement verticale? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des voix qui s'élèvent pour dire qu'on aurait dû un tout petit peu aussi demander leur avis aux populations qui vivent dans ces quartiers?
Oui, normalement, je travaille aussi pour l'entreprise de développement urbain. Et parce que dans mon travail de thèse, je voulais bien comprendre ces méthodologies d'intervention sociale. Alors, c'était transformer un territoire. parc aménagé du bâti, pas seulement des aménagements, des parcs, des équipements, sinon aussi un accompagnement social institutionnel qui jusqu'au présent était nié. Alors, l'institutionnalité arrive et c'est un rapport horizontal qu'on entretient avec les gens. Et normalement, avec les gens, on essaye de dessiner ces nouvelles villes parce que on a bien compris que faire des aménagements sans concertation de la population, et ça allait pas marcher, ça allait pas voir la vie sociale qu'on cherchait les données. Alors, tous ces aménagements, ils ont été concertés. On avait, on a encore dans l'entreprise de développement urbain et les techniques de atelier d'imaginer urbain. Ouais. Et il y a beaucoup de concertations parce que c'est des territoires hyper difficiles à conquérir et très méfiantes de l'État, des représentations de l'État.
Alors, ouais, donc on a quand même mis en place des cadres de concertation. Est-ce qu'il y a des aménagements qui n'ont pas marché?
Oui, et il y a quand même beaucoup d'aménagements qui n'ont pas marché, à mon avis. Je trouve par exemple le cas de Huambo, que c'était un aménagement de bidonville, un site. Et en fait, c'était un site tellement complexe que l'analyse sociale n'était pas réalisée tout au fond. Et c'était une communauté très fragmentée. Alors, malgré les nouveaux bâtiments à côté de la rivière, et malgré la proximité au métro câble et les espaces publics aménagés, et maintenant, c'est encore un territoire en conflit, un territoire qui appartient aux ventes, un territoire où les gens, ils ont peur d'habiter là. Même s'ils ont amélioré un peu leur qualité de vie, et c'est un territoire pas approprié. Parce qu'on n'a pas regardé vraiment les conditions sociales et sociopolitiques. On n'a pas compris bien ce territoire, à mon avis. C'est ce que j'ai pu comprendre avec mon travail de terrain.
Je voudrais qu'on fasse réagir peut-être nos deux invités, Yann Basset et Jacobo Grajales. On commence avec vous, Jacobo, sur cet urbanisme social du côté de Medellín.
Effectivement, je pense qu'il y a deux choses et on gagne peut-être parfois à les dissocier. D'une part, sur les innovations urbanistiques menées par la ville de Medellín depuis une quinzaine d'années. Effectivement, c'est une ville qui est devenue un modèle exportable. Il y a eu beaucoup d'efforts aussi des autorités de la ville pour en faire un modèle, pour bien le packager entre guillemets. Donc ça c'est un point et il y a eu c'est quelque chose qui est appuyé sur une réalité. Et l'autre point, et je pense que ça relève pas forcément des mêmes logiques sociales, c'est la pacification des milieux criminels de la ville, pacification qui reste relative mais qui est réelle, qui tient bien évidemment à une présence plus importante des forces de police, mais aussi des formes de médiation notre collègue évoquait, mais qui tiennent aussi à la transformation des milieux criminels dans les années, à la fin des années 2000 et dans les années 2010. Pour dire les choses très très rapidement, aujourd'hui ce qu'on a dans la ville de Medellín comme dans d'autres villes du pays, c'est une sorte de pax traficana, comme certains l'appelleraient, de paix entre les acteurs du milieu criminel, dans laquelle tout le monde est d'accord pour ne pas s'affronter à l'intérieur de la ville, éventuellement pour sortir les affrontements du périmètre de la cité, et dans laquelle les autorités municipales jouent aussi ce jeu, puisqu'ils ont très bien compris qu'il était impossible d'éradiquer par la force ces phénomènes de trafic de drogue et qu'il valait mieux chercher des modes d'accommodement.
Yann Basset, réaction aussi. Et puis peut-être faut-il introduire la figure du maire de Medellín, parce que on parlait tout à l'heure de Claudia López, la maire de Bogota, mais du côté de Medellín, là aussi, il y a une figure dont on parle beaucoup, qui est un jeune responsable politique qui a été élu en octobre 2019, qui est Daniel Quintero Calié. Et lui aussi, il se trouve qu'on a beaucoup salué sa gestion de la crise du Covid. Est-ce que il faut aussi rappeler, parce qu'on disait tout à l'heure que Bogota c'était peut-être le tremplin pour un destin national, du côté de Medellín c'est un peu pareil. Il faut rappeler qu'Alvaro Uribe, ancien président, a été maire de Medellín au début des années 80. Est-ce que ce Daniel Quintero Calle, ça pourrait être une autre figure qui pourrait, alors là, s'opposer pour le coup, parce qu'ils sont pas du même bord, à Claudia Lopez, Yann Basset?
Oui, alors effectivement, Daniel Quintero a eu une gestion intéressante aussi. C'est aussi un profil très intéressant. C'est quelqu'un qui effectivement vient aussi de milieu populaire, qui ne fait pas partie de la classe politique et qui aussi a été élu de manière surprenante, sans un soutien partisan très fort et face à plusieurs candidats de la classe politique traditionnelle. Medellín est aussi une histoire intéressante. De très bonne gestion locale et avant Quintero, il y a eu d'anciens maires de Medellín qui sont passés, qui ont utilisé leur bonne gestion locale comme un tremplin vers la vie politique nationale.
Alors, je pense à qui ?
Pas tant Alvaro Uribe, parce que Alvaro Uribe, ouais. Il est connu pour d'autres raisons, mais Sergio Fajardo, par exemple, qui a été le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, qui n'est pas passé au second tour, et donc Claudia López était justement la candidate à la vice-présidence. Donc là, il y avait une alliance Medellín-Bogota qui était intéressante et il y a un mouvement effectivement de rénovation de la classe politique en Colombie qui passe beaucoup par des succès locaux comme ceux-là.
Et est-ce que ça veut dire, alors on fait de la politique fiction totale, mais est-ce qu'une alliance, une nouvelle alliance Medellín-Bogota, Claudia López et Daniel Quintero est possible ou non?
Oh, c'est parfaitement possible, mais alors là, effectivement, on est dans la politique.
Oui, bien sûr. On l'assume. Merci beaucoup, en tout cas, Tatiana Hernández Toro, d'avoir été avec nous ce matin. On va parler de la question des militants de l'environnement, des leaders sociaux, les leaders communautaires, comme on les appelle.
Nous autres, en tant que peuple et grâce aux luttes de nos ancêtres, nous avons pu nous installer sur cette terre. Depuis 1636, notre communauté noire vit sur cette terre. J'ai grandi sur les rives de la rivière Verana, nageant, pêchant et orpaillant. C'est l'unique endroit qui nous fait nous sentir heureux.
Esclava no soy. Del África me sacaron.
Cette voix que vous entendez, c'est celle de Francia Márquez, afro-colombienne, militante des droits humains et de l'environnement. Elle avait reçu le prix Goldman pour l'environnement en 2018 pour son action contre l'extraction illégale de l'or dans sa communauté de la Toma. Et l'année dernière, elle avait été victime d'une tentative d'assassinat dont elle a miraculeusement réchappé. La Colombie est confinée depuis près de 3 mois et pourtant la violence continue de sévir dans les zones rurales, alors que le gouvernement d'Ivan Duque ne cache pas sa volonté de remettre en cause les accords de paix signés à La Havane en 2016. La situation ne cesse de se détériorer dans le pays et en particulier justement pour ses leaders, puisque d'après un récent rapport de l'ONU, 107 défenseurs des droits de l'homme ont été tués l'année dernière en Colombie et cette année, sur la période janvier-avril, on note une hausse déjà de 54%. Bonjour Camille Boutron.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'IRSEM au sein du domaine Défense et Société. Vous êtes docteur en sociologie, l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Depuis le début de la pandémie, Camille Boutron, les niveaux de violence ont encore augmenté. Depuis mars, il y a 30 leaders sociaux qui ont été tués, c'est des chiffres qui ont été donnés par l'ONG Indepass. Donc non seulement les assassinats de leaders sociaux s'accélèrent, mais en plus il y a évidemment quelque chose qui se passe, c'est que les médias en parlent beaucoup moins parce qu'ils sont concentrés sur autre chose, sur le front sanitaire.
Alors tout à fait, il y a plusieurs facteurs. En réalité, cette augmentation des assassinats de leaders sociaux, il faut la voir comme la continuité d'une dynamique qui s'est poursuivie malgré la signature de l'accord de paix. C'est toujours difficile de parler de ce sujet parce que sous le label leaders sociaux, on a en fait une grande diversité de dirigeants communautaires, présidents de juntes communales, dirigeants de coopératives paysannes, autorités indigènes, parfois même ex-combattants parce qu'on a aussi ce problème de ce côté-là. Donc il y a déjà une complexité au niveau de qui est ciblé. Et en fait, là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la fondation Ideas para la Paz, elle a sorti un rapport il y a pas très longtemps, qui montrait qu'il y avait plutôt une baisse des homicides au niveau national d'environ 16%, mais qu'en parallèle, il y avait une augmentation très forte des assassinats de leaders sociaux. Donc on voit bien qu'on est dans une un ciblage très spécifique.
Mais alors Camille Boutron, justement, comment comprendre l'augmentation de ces assassinats alors même que le gouvernement d'Ivan Duque a mis en place un programme de défense de ces leaders sociaux? On met évidemment des guillemets parce qu'on a compris que ça masque des réalités extrêmement diverses. Mais il faut comprendre que ce programme national de protection des leaders sociaux ne fonctionne absolument pas. Et si c'est le cas, pourquoi?
Alors, je me permettrai pas de critiquer ouvertement les programmes.
Vous pouvez le faire, hein.
Mais n'étant pas sur le terrain là à l'heure actuelle. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est surtout que la mise en œuvre de l'accord de paix, justement en ce moment, elle est censée rentrer dans une phase à long terme. C'est-à-dire que dans l'accord de paix, il y a un certain nombre de mesures et qui sont censées permettre des transformations structurelles et profondes de la société colombienne, notamment dans la participation politique et dans l'accès à la terre. Or, on est pile au moment où ces mesures sont censées être mises en place, et c'est là où ça pose problème, puisqu'on est face à des résistances extrêmement fortes des groupes de pouvoir, notamment qui s'appuient sur les acteurs armés, qui, eux, contrôlent ces territoires et qui contrôlent le pouvoir. Et de façon générale, ce qu'il se passe, c'est une résistance des groupes conservateurs ou en tout cas des acteurs de pouvoir traditionnels en Colombie. Donc ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique derrière pour toutes ces raisons-là.
Pas la volonté politique ou pire que ça, une forme de connivence, parce que il y a certaines voix qui s'élèvent du côté de la Colombie pour s'étonner du peu d'entrain, on va dire, des autorités à lutter justement contre les groupes armés, en particulier dans les zones rurales, qui laissent clairement entendre qu'en fait, il y aurait peut-être un intérêt à laisser agir tout ce petit monde-là. On constate par exemple que il y a beaucoup d'attaques de civils qui ont lieu dans des zones qui sont très militarisées, en particulier dans les couloirs d'accès au Pacifique qui sont si importants pour le narcotrafic. Est-ce que effectivement c'est du laisser-faire ou c'est pire que ça?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous l'avez mentionné, Ivan Duque, il est clairement opposé aux accords de paix. À l'heure actuelle, l'accord de paix, il reste au moins un quart des mesures à mettre en place. Très sincèrement, ce qu'il s'est passé avec cet accord de paix, c'est que finalement les FARC, en acceptant de se démobiliser, ils ont laissé un vide de pouvoir sur des territoires qu'ils contrôlaient. Ces territoires ont été rendus disponibles pour justement des intérêts économiques privés qui sont plutôt contraires aux transformations sociales désirées par les Colombiens. Donc de façon générale, il y a clairement une connivence entre certaines élites politiques, économiques et les groupes armés pour avoir l'accès et contrôler ces territoires, qui sont des territoires d'une grande richesse, notamment au niveau des extractions minières, mais aussi au niveau des couloirs. Moi, je sais que j'étais, par exemple, sur le terrain, mais bon, c'était quand même en septembre dernier. On était justement dans ce fameux couloir, et c'est des Chinois qui créent l'autoroute, et on est passé devant des camps de prisonniers politiques chinois, voilà. Et personne ne savait qu'ils étaient là.
Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Qu'est-ce qu'ils
faisaient? Ça, je ne sais pas. Ça a été confirmé à ce moment-là quand on a pu discuter avec les représentants de la mission de vérification de l'ONU. C'était pas forcément quelque chose de très connu, mais il y avait une présence chinoise extrêmement importante, par exemple, hein, comme on peut le retrouver dans d'autres pays d'ailleurs.
J'ai pas bien compris. Ils construisaient la route. Enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient là?
Oui, il y a un projet d'autoroute justement, du Pacifique jusqu'au Golfe d'Uraba. Il y a depuis des années un projet d'autoroute qui ne se fait pas, et là qui en ce moment est en train. Si vous prenez la route, vous allez voir, il y a énormément de travaux et il y a cette route qui est en train de se faire.
D'accord.
Il se trouve que là, on voit bien qu'il y a des connivences, si vous voulez, entre élites économiques, groupes armés et puis aussi des intérêts de corporations internationales. Voilà.
Oui, c'est clair. Là, c'est clair.
À très haut niveau. Voilà, c'est ça que...
C'est parfaitement clair. Jacobo Grajales, réaction?
Oui, alors peut-être deux points sur la question. Je rejoins totalement ce qui a été dit par Camille Boutron sur la question de la protection des leaders sociaux. Moi, j'aurais tendance à être quand même très très critique sur les programmes mis en œuvre par le gouvernement qui ne sont absolument pas financés à la hauteur des enjeux. La dernière fois que je faisais un terrain, donc un petit peu avant le confinement, je suis rentré 15 jours avant le confinement, je rencontrais l'une des personnes avec laquelle je travaille là-bas, qui est un leader dans des conflits pour les terres, et qui me montrait l'équipement qui lui avait été donné par l'agence de protection donc des personnes en danger. C'était un téléphone, vous savez, les vieux téléphones Nokia du début des années 2000, et un gilet pare-balles qui datait à peu près de la même époque. Donc je pense que le gouvernement ne prend pas du tout au sérieux ces choses-là, et à une adhésion purement rhétorique à la question de la protection de ces personnes, puisqu'il faut bien donner bonne image vis-à-vis de l'étranger. Puis le deuxième point, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui avec ces violences, c'est essentiellement la consolidation d'un ordre politique et économique post accord de paix, où effectivement, comme le disait Camille Boutron, il y a une concurrence pour qui va accumuler les profits des investissements en cours, de la croissance, enfin qu'on avait jusqu'au confinement. Et puis il y a un deuxième point aussi, c'est que le gouvernement, pour le coup, est non seulement il traîne des pieds dans l'implémentation dans la mise en œuvre de ces accords de paix, mais en plus, lorsqu'il les met en œuvre, il vide en très grande partie ces accords de paix de leur contenu. Les politiques foncières, par exemple, on fait des politiques foncières, mais on fait pas du tout de la redistribution de terres, ce qui était quand même le cœur de l'affaire.
Yann Basset, toute dernière réaction, on arrive au terme de cette émission, et puis on va dresser un dernier pont entre justement ces zones rurales dont on parle, et puis Bogota, et réintroduire cette figure dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, c'est Claudia Lopez, parce qu'aujourd'hui, la politique colombienne, elle tourne depuis des années maintenant autour de cette question des accords de paix. C'est quoi sa position sur ces fameux accords de paix de La Havane à Claudia Lopez, Yann Basset?
Alors Claudia Lopez, comme maire de Bogota, elle n'est pas impliquée directement dans cette gestion, parce que la paix, c'est quelque chose qui se joue dans les territoires, dans les régions les plus éloignées du centre politique, où justement le conflit a eu une grande importance. Mais il y a quand même un rôle indirect à jouer, parce que Bogota doit accueillir et réinsérer de nombreux acteurs qui ont fui ces régions et qui se sont réfugiés dans la capitale. Ce qu'on appelle les déplacés, et Claudia Lopez s'est engagée à mettre en œuvre les accords de ce point de vue-là et à aider ces populations. Plus généralement, disons, avant d'être maire de Bogota, elle a pris position très clairement en faveur de ces accords de paix, et la mise en œuvre des accords continue à être un point très très sensible, et c'était une partie importante de la démobilisation sociale de la fin de l'année dernière qu'on a mentionné contre le gouvernement et disons sa mise en œuvre un petit peu à contre-cœur de ces accords de paix, disons.
Donc ça fait évidemment une divergence fondamentale entre elle et le président Iván Duque, une de plus.
¿Quién no quiere a Bogotá? Es que nunca he estado en ella.
Allez, merci infiniment à tous nos invités. Camille Boutron qui était à l'instant avec nous par téléphone. Et un grand merci à Jacobo Grajales qui est avec nous depuis Lille. Et grand merci également à Yann Basset, doublement parce que vous étiez vous en direct de Bogota et qu'il est bientôt chez vous. Merci infiniment à tous les trois, à tous les quatre.